Vous écoutez
RMC.
6h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Demi-finale de Ligue des Champions. Ce soir, le PSG reçoit Dortmund dans un Parc des Princes qui s'annonce incandescent. Seule la victoire compte pour les Parisiens, battus 1-0 à l'aller. L'espoir d'une trêve s'éloigne au Proche-Orient malgré l'accord du Hamas hier, trop éloigné des exigences d'Israël qui poursuit ses frappes sur Rafah. Il avait popularisé la dictée à la télévision, amoureux des mots et des livres. Bernard Pivot s'est éteint hier à l'âge de 89 ans.
Paris prêt à vibrer.
Demi-finale, retour de la Ligue des Champions, c'est ce soir et c'est à vivre sur RMC. Battu 1-0 la semaine dernière à Dortmund, les Parisiens ont leur destin en main. Ils doivent l'emporter pour se qualifier en finale de la compétition. Des Parisiens très attendus sur le terrain et pour les aider dans leur quête, Julian Bobnov. Plus de 48 000 supporters prêts à tout donner ce soir dans un Parc des Princes qui s'annonce bouillonnant.
Oui, le Parc des Princes sait se faire entendre et encore plus pour l'un des rendez-vous les plus importants de son histoire. Pour battre Dortmund, le PSG aura besoin de ses supporters et Marquinhos le sait.
Nous, on attend que tout un peuple, tout un stade, toute une ville soit avec le Paris Saint-Germain parce que c'est un match très important.
Message reçu par les supporters parisiens qui promettent l'enfer aux Allemands.
Le parc, c'est mythique de base, mais alors c'est plus mythique. Ça va être légendaire ce qui va se passer.
Rien que quand Dortmund a 4000, c'est nous qui faisons le plus de bruit, alors...
Ah ouais, là, c'est 30 000 qui vont chanter.
Ils sont pas prêts.
Tifo XXL, pyrotechnie, tout sera fait pour que l'ambiance exceptionnelle demandée par le président Nasser El Khelaïfi soit au rendez-vous. Luis Enrique, lui, n'en doute pas une seconde.
Le rôle des supporters sera vital et nous avons une garantie absolue du fait qu'ils soient à fond derrière nous. Ils l'ont été toute l'année, surtout lorsque nous en avions besoin.
29 ans après sa dernière demi-finale de Ligue des Champions à domicile, le Parc des Princes ne demande qu'à s'embraser pour que le PSG puisse enfin rêver plus grand.
Soirée spéciale PSG Dortmund sur RMC ce soir en direct du Parc des Princes de 18h à minuit et demi. Et puis le foot toujours avec la victoire de Lyon hier soir à Lille pour le compte de la 32e journée de Ligue 1. Mené 2-0, les Lyonnais renversent la tendance pour finalement s'imposer 4-3. RMC, il est 6h passé de 32 minutes. Pas un acte ne doit rester impuni. Pas un antisémite ne doit avoir l'âme tranquille. Les mots de Gabriel Attal hier soir lors du dîner annuel du CRIF, le Premier ministre, qui annonce une hausse du nombre d'actes antisémites de 300% sur les trois premiers mois de l'année par rapport à l'an dernier. Cela représente 366 actes antisémites recensés sur le territoire. Les négociations doivent reprendre en Égypte ce matin autour d'une trêve à Gaza. Le Hamas a pourtant donné son feu vert hier à un accord hier soir. Accord trop éloigné des exigences d'Israël qui poursuit ses frappes sur Rafah au sud de la bande de Gaza. Au moins 5 personnes ont été tuées cette nuit dans cette ville refuge pour de nombreux Gazaouis qui vivent dans la crainte et la confusion. C'est le cas d'Asma, une citoyenne palestinienne francophone rencontrée par Caroline Philippe.
Depuis la maison de sa sœur au nord de la ville.
J'attends bien les attaques. On attend toujours les avions.
Asma s'est réfugiée là, après avoir fui Khan Younes.
C'est dur, dur.
La nuit, les cauchemars et la journée, le ventre noué par la peur d'une offensive israélienne au sol.
Si ils vont faire une opération ici à Rafah, alors on est obligé de rentrer à notre appartement. C'est vrai que les conditions à Khan Younes sont trop difficiles. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'électricité.
Hier, c'était la confusion dans les rues de Rafah. Depuis sa fenêtre, Asma a d'abord vu des dizaines de voitures fuir, puis la liesse au moment où le Hamas annonce accepter une proposition de trêve, toujours pas validée par Israël.
C'est de la politique. C'est un jeu entre le Hamas et l'Israël. Moi, je n'ai pas de confiance aux deux côtés, mais on prie... On souhaite bien que les choses s'arrêtent parce que c'est insupportable.
Hier, une partie de sa famille, ses tantes, ses oncles ont quitté l'est de la ville juste avant que la zone ne soit bombardée par l'armée israélienne.
Deuxième jour de visite pour Xi Jinping en France. Le président chinois attendu dans les Hautes-Pyrénées ce mardi aux côtés d'Emmanuel Macron, le président de la République qui a remercié hier son homologue chinois de ne pas imposer de taxes douanières provisoires contre le cognac français. Un soulagement pour la filière qui faisait l'objet d'une enquête anti-dumping lancée par les autorités chinoises début janvier.
6h34 sur RMC, menace de grève sur le Festival de Cannes.
À une semaine de l'ouverture de la 77e édition, le collectif Sous les écrans, La Dèche, lance un appel à la mobilisation loin du Strass et des paillettes. Ils réclament le statut d'intermittent et dénoncent, Victor Jonin, les différentes réformes de l'assurance chômage qui ne cessent d'accroître la précarité des métiers du cinéma.
Le collectif précise que l'objectif n'est pas de nuire au film ou d'empêcher l'ouverture du festival, mais une grève pourrait bien perturber son déroulement si elle est suivie. Un professionnel du secteur s'interroge justement. C'est dur de faire une croix sur son salaire et travailler à Cannes est prestigieux. Mais le collectif et ses 200 membres sont désormais bien identifiés dans le milieu du cinéma. La lauréate de la Palme d'Or, Justine Triet, arborait d'ailleurs un pin's à leur effigie lors de la dernière montée des marches. Cela fait plusieurs années qu'ils alertent sur leurs difficultés. Ces milliers de projectionnistes, régisseurs ou encore chargés de billetterie, vivent du chômage entre deux festivals, mais de plus en plus mal, car les dernières réformes ont durci les conditions d'accès et d'indemnisation, et ainsi près de la moitié d'entre eux toucheraient moins de 1 500 € par mois, selon une étude du collectif.
Les précisions de Victor Joannin pour RMC. Du monde sur la route ce mardi. Bison futé, voie rouge dans le sens des départs sur l'ensemble du pays. Conséquence du Grand Pont. 8 mai, Ascension, demain et jeudi. Il est recommandé de quitter ou de traverser l'Île-de-France avant midi et d'éviter les grands axes cet après-midi. Il aimait les livres, les mots, les lettres. Bernard Pivot est mort hier à l'âge de 89 ans. Journaliste et écrivain, il avait amené à la lecture des millions de téléspectateurs grâce à ses émissions Apostrophe et Bouillon de culture diffusées jusqu'au début des années 2000. Bernard Pivot, c'est aussi les célèbres dictées qu'il lisait en direct à la télévision, un exercice périlleux, mais aussi de très bons souvenirs pour de nombreux Français rencontrés par Clément Brossard.
Quand vous soumettez une dictée de Bernard Pivot à trois jeunes parisiennes...
L'eau envahit les riases et les fjords tant vantés par les tours opérateurs.
Ça ressemble un peu à un calvaire.
On a plein de petits mots qu'on connaît pas trop. C'est du chinois, c'est plus du français.
Et même pour les plus expérimentés comme Anne, l'exercice reste complexe.
Sur notre planète terraquée, les fagnes, les bayous et les loques rappellent sa présence. Notre planète terraquée, je connais pas cet adjectif.
Comme une sorte d'héritier de Bernard Pivot, Rachid Santaki organise maintenant des dictées géantes inspiré par l'académicien.
Pas mal de familles étaient devant leur télé à faire la dictée. Effectivement, ça m'a inspiré. C'était plutôt de faire des dictées au départ plus accessibles. Et aujourd'hui, effectivement, je suis les traces. Au-delà de l'inspiration, je suis amené à répondre aussi à cette demande et à cette envie de faire pencher toutes les générations à cet exercice.
Un exercice qu'il souhaite d'ailleurs à nouveau organiser prochainement pour rendre hommage à celui qu'il appelle Monsieur Culture, avec pour principal critère une difficulté accrue.
Et puis les courses, c'est à Chantilly.
Et c'est à 13h55 en direct sur AMC Découverte. Le 5, Denver Chapel, favori de la Dream Team AMC. L'outsider, c'est le 6. Restive, le 5 et le 6.
C'était le journal de Thibaut Texer. Et puis tiens, oui, vous nous parliez de Bernard Pivot. N'hésitez pas, si vous avez des souvenirs de moments où vous avez vu Bernard Pivot, où vous avez participé à cette dictée, ou bien il vous a fait découvrir, aimer des écrivains, des livres. Le 32-16 vous est ouvert pour qu'on puisse partager tous ensemble.
À suivre dans Apolline Matin sur RMC.
Alors, c'est pas un pont de mai, c'est carrément un viaduc. Ce soir, il y aura la France qui bosse et la France qui part en week-end. Et j'aimerais bien entendre les deux au 32-16. Vous venez témoigner, me dire si vous partez quelques jours ou si vous en avez d'ailleurs les moyens. Et puis, les professionnels du tourisme à l'écoute d'RMC, appelez donc le 32-16. Est-ce que vous avez fait le plein? Vous êtes en restaurant, hôtel, camping? Dites-nous si les touristes, les voyageurs, les Français sont au rendez-vous. Vous nous appelez au 32-16 et puis on va en débattre. Est-ce que, franchement, on a trop de jours fériés. À tout de suite dans Apolline Matin.
RMC Police Justice.
Mais c'est l'heure de retrouver le chef du service police-justice d'RMC pour l'histoire du jour. Bonjour Guillaume Biais.
Bonjour Apolline, bonjour à tous.
Vous nous racontez ce matin, Guillaume, le scénario invraisemblable de l'assassinat d'une mannequin en Équateur tuée pour avoir publié une photo sur ses réseaux.
Oui, une image qui n'avait pourtant rien de sulfureux ou de particulièrement provocateur. Une photo tout à fait anodine qu'elle a prise elle-même avec son téléphone, puisque c'était tout simplement une photo de son assiette dans un restaurant. Le plat qu'elle venait de commander, un ceviche de poulpe, un plat typique, dont la photo aurait permis à ses assassins de la localiser, de savoir dans quel restaurant elle se trouvait. 20 minutes à peine après la publication, deux tueurs à gages ont fait irruption et l'un d'eux a ouvert le feu, assassinant froidement la jeune femme. Landy Paraga est morte sur le coup à 23 ans. Elle qui avait été finaliste du concours de Miss Équateur il y a 2 ans. Depuis, elle était devenue influenceuse, suivie par 174 000 followers sur Instagram. Elle avait aussi créé sa propre marque de vêtements.
Mais pourquoi elle a été abattue comme ça dans un restaurant ?
Eh bien, parce que cette jeune femme, au-delà de ses activités officielles et de ses innombrables séances photo, elle avait aussi une face plus sombre, une vie cachée qui pourrait bien avoir provoqué sa mort. Landy Paraga a été la maîtresse du principal baron de la drogue en Équateur, un certain Leandro Norero, également connu sous le surnom d'El Patron. Des photos de ce narcotrafiquant en compagnie de la jeune femme ont été retrouvées dans son téléphone. Leur relation serait même allée bien au-delà. La presse équatorienne évoque des soupçons de complicité. En fait, la reine de beauté aurait utilisé ses activités légales pour blanchir l'argent de la drogue de son amant. Or, on le rappelle, dans tout cela, Norero était marié. D'ailleurs, il avait fait une confidence à l'un de ses complices en parlant de la belle Landy Paraga. Il avait dit « Si ma femme découvre quelque chose sur elle, je suis foutu ». Depuis, ce trafiquant est mort, tué en détention. C'est d'ailleurs son assassinat il y a un an et demi qui a provoqué une vague de meurtres sanglants dans les prisons équatoriennes. Ça avait fait une vingtaine de morts. Mais la veuve de Norero, en revanche, elle, est toujours en vie. Alors, eh bien, les médias locaux relaient cette hypothèse. Et si c'était elle qui avait commandité l'assassinat de la jeune Landy Paraga par vengeance? Quand on sait que l'ex-épouse du trafiquant tremperait elle aussi dans le crime organisé, on la soupçonne en effet de corruption dans un vaste dossier où des policiers et des juges véreux ont déjà été arrêtés.
RMC, Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 6h42 et vous êtes bien sur RMC.
À vous de nous dire.
Je voulais d'abord vous remercier de votre participation hier à l'interview de Marine Le Pen, parce que vous êtes des centaines à nous avoir envoyé vos questions pour Marine Le Pen, vos questions, vos interpellations. Vous étiez très présents, et très présents évidemment pendant l'interview, même si j'aurais aimé pouvoir donner la parole à encore davantage d'entre vous. Mais merci, merci, c'est grâce à vous aussi que l'exercice est réussi, et c'est la singularité d'RMC, vous donner la parole pleinement à nos côtés. Bon, ce matin, on va évidemment parler de tout autre chose, parce que ce soir, la France s'arrête. Plus d'école, pas de travail, deux jours fériés et un vendredi qui se retrouve un peu au milieu et où les Français n'iront pas tous travailler, faut être honnête. Il y en a deux sur trois qui m'intéressent ce matin. C'est ceux qui, justement, sont aussi au travail pour accueillir ceux qui vont peut-être réussir à s'échapper un peu. Et vous nous le dites au 32-16, est-ce que vous partez ce soir ou demain en week-end? Est-ce que vous avez les moyens aussi et où est-ce que vous partez? Et puis si vous êtes, comme je le disais, hôtelier, restaurateur, gérant de camping, de maison d'hôte, est-ce que vous faites le plein? Est-ce que les Français, est-ce que les touristes sont au rendez-vous? Et puis on va faire un peu de provoque, mais dans cette période de vache maigre pour l'économie, est-ce qu'on a les moyens de ne pas travailler pendant quasiment trois jours? Ça, Manu, je vais quand même vous poser la question. Ça va coûter combien, toute cette petite affaire?
Ça ne coûte pas grand-chose, en fait.
Mais
non, qu'est-ce qui est vraiment perdu comme activité? Il y a plein d'activités qui sont décalées. Mais si vous êtes, si vous bossez dans un bureau, le dossier que vous ne traitez pas le jour férié, vous l'aurez traité la veille ou vous l'aurez traité le lendemain.
Oui.
Il y a plein d'usines maintenant qui tournent en permanence et qui ne ferment plus. Et puis, il y a des effets de vase communicants. Alors oui, c'est sûr que les théâtres, les cinémas, ce n'est pas terrible. Mais en bord de mer, ça va être l'activité. Les restaurateurs, par exemple. Bah oui, ceux qui sont dans les centres-villes, ils vont avoir moins de clients. Mais ceux qui sont en bord de mer, ils vont avoir plus de clients. Donc au niveau global, si vous voulez, ça n'a pas tant d'effet que ça.
Et ça s'équilibre, on est avec vous au 32-16. Il y a d'abord Rico qui nous appelle de l'Indre. Bonjour Rico.
Salut Pauline, comment allez-vous?
Ben, ça va bien et vous?
Alors, j'habite dans l'Indre, mais je travaille dans la Sarthe.
Oh là là, pays béni des dieux. Wow. Et alors,
Non, mais je pense que le Berry, c'est plutôt le pays béni.
C'est pas mal aussi. Ok, j'avoue, le Berry, c'est bien. Rico, dites-nous, vous travaillez justement dans un camping dans la Sarthe.
Oui, je travaille à Brulon, au camping le Septentrion.
Oui.
Où on a commencé la saison, la mi-avril.
Bien.
Je travaille jusqu'à fin août là-bas.
Et malgré la pluie et tout ça, les gens sont là?
Oui, parce que je vous rappelle que ce week-end, dans la Sarthe, il y a un gros événement. C'est le Grand Prix de France Moto.
Évidemment. Évidemment. On en a beaucoup parlé d'ailleurs sur l'antenne d'RMC. Donc,
d'ailleurs, à ce sujet, je voulais passer un gros coucou à tous mes potes bikers de la Fédération des Bikers de France.
On salue les bikers qui seront tous au rendez-vous ce week-end au camping de Brulon et sur le circuit des 24 heures. Rico, donc vous faites le plein là pour ce week-end? En particulier, évidemment, avec cet événement-là, mais avec le pont, j'imagine qu'ils arrivent plus tôt, quoi.
Oui, et puis nous, on est sur une base de loisirs, il nous manque juste le beau temps pour vraiment être full.
Je crois qu'il arrive le beau temps. Je crois que votre week-end va être bon dans la Sarthe, Rico. Vous êtes saisonnier, donc, hein, puisque vous dites, oui, je viens de prendre et je suis là jusqu'à fin septembre. Vous faites quoi le reste de l'année?
Eh bien, je travaille aussi en cuisine quand j'ai du boulot.
Voilà. Et vous êtes en cuisine au camping?
Oui.
Et vous faites quel genre? C'est plutôt snack ou vous faites où il y a une partie
alors,
de resto?
Alors les propriétaires qui sont des amis étaient partis sur une idée de snack au départ, mais ouais. Je pense qu'on va un petit peu améliorer ça parce que comme on est un peu dans la campagne, c'est un peu compliqué pour attirer les gens du coin que sur du snack.
Ouais.
Donc on va faire des plats du jour, des choses comme ça, des petits desserts sympas.
Très bien, très bien. Non, mais alors donc on sait pour Brûlon, mais sauf que c'est plein peut-être ce week-end, non?
Oui, ce week-end, on est complet, oui.
Et vous avez un peu de la perspective? Est-ce que les patrons du camping, ils vous disent, voilà, ils ont de la perspective, ils sont à peu près satisfaits ou ils sont inquiets?
Alors pour l'instant, ils ont zéro perspective pour la simple et bonne raison, c'est qu'ils reprennent de cette année.
D'accord.
Et évidemment, on a des ambitions, c'est mieux faire que ceux d'avant.
Combien d'emplacements?
Alors là, je peux pas vous dire.
Mais combien de personnes, quoi? Vous savez combien de couverts vous devez préparer, quoi, en gros?
Non, justement, on sait pas, ça dépend du temps. Nous, on peut monter, on peut faire 10 couverts, comme on peut faire 80 couverts.
Ah oui, donc faut savoir s'adapter aussi.
Il faut inviter à Pau.
J'avoue qu'à Brûlon, j'y passerai bien. Ça, j'y passerai bien. Bon, je vais passer le week-end en Auvergne, mais cela dit, la prochaine fois que je suis dans la Sarthe, je passe vous saluer quand même, Rico.
Ça sera avec plaisir, Apolline, de vous accueillir là-bas.
Promis.
Avec toute l'équipe.
Promis à Brûlon. Vous embrassez tout le monde. Rico, restez avec nous. Il y a aussi Stéphane qui, lui, nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Stéphane.
Bonjour Apolline.
Comment ça va Stéphane? Vous êtes chauffagiste? Vous allez bosser demain?
Bon, non, moi je suis dans le Cantal là en ce moment.
Ah oui, d'accord, vous êtes parti au Verre.
Bah oui, parce qu'on est contraire du monsieur qu'on a eu avant,
ouais.
Chauffagiste, donc la saison, c'est plutôt le contraire, non?
Ouais, donc, vous bossez particulièrement l'hiver. Vous l'avez fermé quand là, la boîte?
Le 1er mai.
Le 1er mai, et vous la rouvrez quand?
Lundi.
Lundi, c'est ça, vous avez pris un gros 10 jours.
Ouais, ça faisait 8 mois qu'on était ouvert. Il fallait faire un choix avec les ponts. Quand on est dans la région parisienne, on sait que les gens y partent énormément. Et puis, faut laisser les gens aller faire les vacances et faire travailler les autres que chauffagiste. En mois de mai, juin, c'est relativement calme. Donc.
Ah non, mais je vous comprends complètement, Stéphane. Vous avez des employés?
Oui, nous sommes trois. Ouais.
Et donc, ils sont contents aussi, s'être dit, voilà, on le sait à l'avance, on a ces 10 jours-là.
Voilà, même s'il n'a pas fait très très beau, mais bon, voilà.
Ouais, vous allez vous rattraper ce week-end dans le Cantal, je crois que c'est pas mal.
Oui, et puis comme dit Monsieur Le Chypre, c'est un vase communicant. Il y a les temps forts et les temps faibles. Il faut faire des choix. Des fois, c'était jamais évident de fermer une entreprise pendant quelques jours, mais bon, des fois, ça coûte plus cher de rester ouvert.
Oui, vous savez que de toute façon, vous avez le chiffre d'affaires en mai, il sera peut-être un peu moindre, mais vous rattraperez. Voilà, on a bien compris, que c'était pas votre mois de l'année, quoi. Stéphane, restez avec nous. On est parti donc avec vous dans le Cantal et Romain nous emmène dans la Manche. Bonjour Romain.
Bonjour.
Boulanger, pâtissier à Saint-Pierre-l'Église.
C'est ça.
Et Romain, est-ce qu'il y a du monde qui arrive?
Ah oui, nous les week-ends, les longs week-ends comme ça, pour nous, c'est du bonheur. Hein.
C'est vrai. Ouais.
Ouais, ça nous amène beaucoup de clients et puis même les gens de la commune. Du coup, qui posent des longs week-ends aussi, on en profite.
Et puis, j'imagine qu'ils sont davantage, alors là, pour le coup, sur la pâtisserie. Enfin, ils se font plaisir, quoi. Moi, je sens, l'appel du week-end, c'est aussi ça. Non, mais c'est vrai. Non, ça fait marrer Manu. Ça fait marrer Manu, mais ça fait partie du plaisir, de la détente, quoi.
Ouais, on se retrouve à faire des journées de dimanche, comme la plus grosse journée de la semaine, on en fait pendant 3 jours.
Après, vous avez des enfants?
3 enfants.
3 enfants, ils vont être où? Ils vont être dans l'arrière-boutique?
Eh ben, la plus grande va être assise à côté de moi dans le labo, le plus petit dans son berceau, et celle du milieu, elle court un peu partout.
Elle a quel âge l'aînée?
Ah, l'aînée, elle vient de prendre 6 ans.
6 ans, 6 ans, elle va être. Ah oui, là, elle va jouer à la marchande, là.
Oui, c'est ça. Bon, elle suit les arts un petit peu, hein. Ça ne dérange pas, elle adore ça.
Mais ça, c'est du boulot, hein. C'est-à-dire qu'on ne pense pas suffisamment à ça. Mais je veux dire, quand on tient la boutique et qu'on a en même temps les enfants dans les pattes parce que c'est le pont, c'est pas commode quand même, hein.
Ah bah c'est une double journée, hein. C'est double casquette, double journée, mais on a fait ça pour ça aussi, hein, c'est de pouvoir profiter et de voir nos enfants tous les jours.
Exactement, et ça c'est quand même assez merveilleux, et franchement d'imaginer qu'elle va être à vos côtés, effectivement, à préparer les croissants, on trouve ça très sympathique. Romain, elle est où la boulangerie, redites-nous?
À Saint-Pierre-et-Lise.
Oui, comment elle s'appelle?
La boulangerie La Madeleine.
La Madeleine. Allez, on va voir Romain à La Madeleine et on va lui acheter les croissants et les pâtisseries pour le week-end. Romain, Rico, Stéphane, merci de nous avoir fait voyager en France. On le sent bien, effectivement. il y a quand même un certain nombre de commerçants.
J'aime bien l'idée des temps forts et des temps faibles. Hein.
Oui.
Ouais, ça, c'est un bon concept.
Hein, ça vaut ça pour l'entreprise. Hein.
Ouais,
les temps forts, les temps faibles. Il est 6h50, le 32-16 vous est ouvert. On poursuit tous ensemble.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et dans un instant, Charles, on n'avait pas osé vous en parler.
Mais pourtant, on va faire le bilan de votre vie amoureuse.
Et puis ?
Un jour pourtant, trois m'as-tu vu patibulaires s'étaient introduits presque en catimini dans sa boutique exiguë.
Nicolas, vous revenez sur la disparition de Bernard Pivot.
Oui, ça c'était la dictée, mais moi je vais vous raconter les grands moments d'apostrophe.
A tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 6h52, on est ensemble jusqu'à 9h et voici le programme de la suite de la matinale. À 7h10, deux chefs d'État à plus de 2000 mètres d'altitude et sans doute sous la pluie. Déjeuner à flanc de montagne pour Emmanuel Macron et le président chinois Xi Jinping sur les pentes du col du Tourmalet. Le patron du restaurant qui les accueillera tout à l'heure sera déjà avec nous. Ce sera donc à 7h10 pour nous raconter ses préparatifs. Et puis à 7h20, le 7h20 d'Apolline Matin avec Amélie.
On va parler réforme des bacs professionnels et ses stages rémunérés qui ne sont pas rémunérés.
Et puis Manu, l'écho.
Les contours de la réforme de l'assurance chômage se profilent.
7h40, on part à Marseille qui accueille la flamme olympique. Réponse avec Samia Ghali qui nous racontera la situation. Et puis à 8h30, notez-le, c'est l'écrivain réalisateur Yann Moix qui sera mon invité.
RMC, Apolline Matin.
Racontez-nous.
Racontez-nous, Nicolas Poincaré. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire des grands moments de Bernard Pivot à la télévision, l'animateur d'Apostrophe qui est mort hier à 89 ans.
Oui, Apostrophe a duré 15 ans, de 1975 à 1990, et aucune autre émission n'a eu de télé n'a eu à ce point, n'a marqué à ce point les esprits. Le 11 avril 1975, Bernard Pivot reçoit Solzhenitsyn pour l'archipel du Goulag, et c'est un tournant pour l'intelligentsia. L'écrivain russe raconte l'univers concentrationnaire soviétique. À partir de ce jour, les communistes français ne peuvent plus dire qu'ils ne savaient pas. Un mois plus tard, Pivot reçoit un autre écrivain russe, Nabokov, l'auteur de Lolita, qui fait semblant de boire du thé, mais on lui sert en réalité du whisky et il termine l'entretien complètement bourré. En 1978, c'est un écrivain américain, Charles Bukowski, qui quitte lui aussi le plateau en titubant et en insultant tout le monde. Lui aussi a beaucoup trop bu. On peut aussi se souvenir des numéros de charme de Jean d'Ormesson ou bien du jeune philosophe inconnu avec sa chemise grande ouverte, c'était Bernard-Henri Lévy, ou bien encore d'une des dernières émissions, sans doute celle dont Bernard Pivot était le moins fier. Gabriel Metzneff se vantait de ses conquêtes de très très jeunes filles et garçons sans être interrompu, jusqu'à ce qu'enfin l'écrivaine canadienne Denise Bombardier se dise scandalisée et ose l'interrompre, mais elle a été très seule ce soir-là.
Très seule, très très seule sur le plateau. François Mitterrand est aussi venu souvent chez Bernard Pivot.
Trois fois au moins, il a donné à Bernard Pivot sa toute dernière interview comme président. Il est aussi venu lors d'une des toutes premières émissions en 75. Bernard Pivot l'avait trouvé éblouissant. Le président avait parlé pendant 10 minutes du désert des Tartares. C'était un petit peu après sa défaite contre Valéry Giscard d'Estaing. Et Bernard Pivot pensait que s'il avait fait cette émission avant l'élection, il aurait gagné. C'est pour dire l'influence que l'on prêtait alors à Apostrophe. Malheureusement, cette émission éblouissante avec François Mitterrand, on ne peut pas la revoir parce qu'elle n'a pas été enregistrée. Quelqu'un avait oublié d'appuyer sur REC.
Mais non, ouais. Non, c'est fou ça.
Ah mon Dieu.
Incroyable. Et on peut quand même entendre un morceau, un moment de Bernard Pivot avec François Mitterrand. Écoutez.
Mais une chose qui m'avait frappé, c'est que tous les écrivains, j'avais dit, mais vous voulez parler de qui pendant ces... On avait préparé quand même au téléphone l'émission pour dire, vous voulez parler de qui? Alors il m'a dit, j'aimerais parler de Lamartine, de Jules Renard, de Buzzati, de je sais plus qui. Et quand il est arrivé, je me suis dit, mais sont tous des écrivains de droite?
Le récit, donc le souvenir effectivement de cette émission disparue. Bernard Pivot qui a donc disparu hier à l'âge de 89 ans. J'adore ce souvenir quand même de Nabokov qui buvait du whisky dans une théière.
Oui,
c'est-à-dire qu'on lui resservait de thé qui en fait n'était effectivement pas du tout du thé.
Pivot était un peu faux parce que c'est lui qui lui disait vous reprendrez bien un peu de thé.
Ah oui.
Ouais, oui.
Et on a appris après que en fait c'était pas du tout du thé. Charles.
RMC, Apolline Matin.
On n'a pas osé vous en parler.
Mais vous vouliez nous parler d'amour, Charles.
Oui, avec une question vertigineuse ce matin à Apolline. Combien de fois tombe-t-on amoureux au cours d'une vie. Ne vous fatiguez pas à répondre, les amis, je connais la réponse.
Ah ouais.
C'est trois fois. Ah. Sondage mené en Grande-Bretagne par
Fake
un
news.
Diamantaire auprès de 3000 personnes, hommes et femmes. On les a interrogés.
Un diamantaire. Ah bah oui, là-bas, Alliance Ring.
Intérêt là-dedans. On les a interrogés sur leur vie amoureuse. Verdict. Au cours d'une vie, on se met en moyenne en couple 5 fois, mais on ne tombe amoureux réellement que 3 fois. Il y aurait donc 2 relations au cours desquelles on ne serait qu'un passager clandestin. Mais il y aurait 3 véritables grands amours au cours d'une vie, que les scientifiques détaillent d'ailleurs à partir du récit des sondés. Le premier amour survient généralement à l'adolescence. C'est un amour parfait qui prend fin lorsque le couple grandit et est confronté aux difficultés de l'âge adulte. S'ensuit un deuxième amour plus destructeur qui permet de tourner la page de cette première relation.
Oh waouh.
Ouais,
en fait, c'est scientifique quoi.
Plus
c'est
douloureuse, pas permet romantique. De savoir ce qu'on cherche réellement dans la vie. Et puis c'est là que survient le troisième amour, celui qui dure vraiment, celui qui permet enfin de trouver l'équilibre dans sa vie. Mais alors attention, en conclusion de leur étude, les scientifiques reconnaissent que ce ne sont que de grandes généralités.
Ah oui, c'est ça.
Qui dépendent évidemment du parcours de vie de chacun et surtout de la définition que chacun donne à l'amour.
Ils auraient peut-être aimé que ce soit plus, parce que trois fois, c'est-à-dire qu'ils vendent que trois fois des bagues.
Et oui,
ils doivent être hyper embêtés. Quoi.
Mais on est 5 fois en couple, alors même si on n'est pas amoureux,
on peut peut-être quand même offrir une bague. Ouais.
Vaste débat.
Il est 6h58, à tout de suite pour la météo du journal.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.